I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Bienvenue à l'émission Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis, animée par la compagnie Les Montures du Temps. Dans le studio, beaucoup d'invités aujourd'hui, puisque c'est une carte blanche au théâtre par cœur, mais que nous avons aussi des invités express. Donc ce sont trois comédiennes qui font partie de la formation L'Âtre, une école de théâtre qui se situe pas très loin des studios de Radio Canu. Et donc, je leur laisse la parole. Elles s'appellent Lucie, Tiffany et Sarah. Et elles vont nous parler d'un spectacle qu'elles vont créer, qu'elles vont jouer la semaine prochaine. Alors, qui prend l'antenne ?
Donc, c'est moi qui vais commencer. En quelques mots, je vais vous présenter donc ATRE, A-T-R-E, qui est un sigle qui signifie Association Théâtrale de Recherche et d'Expression. Donc cette association a été créée il y a 20 ans par Alain Robermas. C'est un organisme de formation qui délivre des cours amateurs ainsi que des cours professionnels. Donc des cours de théâtre pour tout niveau, des cours de chant, de danse ainsi que de Feldenkrais. Donc toutes les trois nous faisons partie de la formation professionnelle qui est en 2 ans, donc avec un parcours préparatoire sur 1 an et un parcours certifiant sur 6 mois, donc une formation intensive. Et au cours de cette formation, la deuxième année, on nous délivre, si on a le niveau bien sûr, un certificat de comédien acteur de niveau 3 qui est reconnu par l'État. Donc une autre chose à savoir aussi sur l'école, l'atout de cette école, c'est qu'il y a une possibilité d'un financement par le Fonds social européen et la région Rhône-Alpes pour 6 étudiants. Donc ça veut dire que le coût de scolarité de ces 6 étudiants sont pris en charge cette année-là, et ainsi qu'une rémunération au cours de l'année. Donc c'est un gros plus pour nous. Donc dans le cadre de cette formation, tous les mois on doit présenter des travaux d'élèves. Donc on a présenté du Racine, du Shakespeare, des contes, des marionnettes, voilà, beaucoup de choses. Et là, donc la semaine prochaine, le 27 et 28 janvier, à l'acte 2, donc dans Lyon 9, on va présenter Incendie de Wajdi Mouawad à 20h.
Voilà, donc je vais poursuivre en vous parlant de cet auteur incontournable, Wajdi Mouawad, qui est donc un dramaturge et metteur en scène qui marque les scènes actuelles. C'est un homme qui est né au Liban et qui a fui le Liban à ses 8 ans pour cause de guerre civile. Il est donc allé avec sa famille en France et à 18 ans, il a de nouveau quitté la France parce qu'il n'arrivait pas à avoir de papier pour le Canada. pour Montréal. Et donc on peut dire vraiment que c'est ce déracinement, la fuite de la guerre civile, de toute cette violence, qui a motivé son travail et réellement nourrit son œuvre aujourd'hui. Voilà, c'est un homme qui a été formé à l'École nationale de théâtre du Canada, à Montréal. Et tout de suite après sa formation, il a commencé son travail, il a tout de suite créé une compagnie. Et donc en tant qu'acteur, metteur en scène, dramaturge, et il est aussi directeur de théâtre. Voilà. Alors ce qui peut marquer dans cet auteur, c'est vraiment la poésie qui se dégage de ses textes l'esthétique de sa mise en scène qui lui permettent pourtant de parler de thèmes très forts, très douloureux, des thèmes de souffrance. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de sublimation de ces thèmes par l'esthétique, la poésie, la beauté de ces mots en fait. D'ailleurs il le dit lui-même, il a choisi de prendre la plume plutôt que les armes. Et on peut dire que c'est ce choix de vie qui a fait l'homme qu'il est aujourd'hui.
Donc voilà, et on a choisi parmi toute son œuvre, on a choisi Incendie, parce que c'est un texte qui nous a beaucoup touchés. Sa plume nous touche beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de poésie, et comme le disait Sarah, les thèmes les plus durs sont magnifiés, donc c'est quelque chose qui a fait que c'est un choix collectif. Et donc l'histoire en deux mots, c'est à la mort de leur mère Nawal, Jeanne et Simon, des jumeaux d'une vingtaine d'années, se retrouvent chez le notaire pour l'ouverture du testament de leur mère, et ils se retrouvent à la découverte d'un père qui est encore vivant et d'un frère, avec la consigne de leur remettre une lettre à chacun, puisque Nawal refuse un enterrement digne et conventionnel tant que cette consigne ne sera pas accomplie et tant que les secrets ne seront pas révélés et que donc l'espoir puisse prendre le dessus. Il s'ensuivra donc une quête à la découverte du passé de leur mère dans un contexte de guerre qui a créé toute leur histoire puisqu'ils partent à l'autre bout du monde. Et voilà, on découvre aussi que l'histoire de Nawal, c'est un vrai puzzle à reconstituer. Et donc que l'histoire des jumeaux est aussi un puzzle à reconstituer, et ils découvriront bien sûr que leur histoire elle commence par un drame quoi. Voilà.
Donc je vais peut-être vous lire un tout petit extrait de la lecture du testament que le notaire Hermile Lebel fait aux jumeaux. Au notaire Hermile Lebel, notaire et ami, aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente. Pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfance est un couteau planté dans la gorge, on ne le retire pas facilement. Donc voilà, donc j'espère qu'on vous a fait envie avec notre petite présentation de...
Mais tout à fait. Voilà. Et moi j'avais une petite question en fait à vous poser. Quand vous dites nous avons choisi collectivement cette pièce-là, est-ce que vous avez quand même des formateurs, des professeurs qui vous ont suggéré, ou c'est vous-même qui avez choisi cette pièce ?
Donc avec notre coordinateur pédagogique et également notre professeur
qui s'appelle
Daniel Tréheux, ouais. qui nous suit sur ce travail-là. L'an passé, on avait fait quelques lectures de Incendie entre nous, puisque la promotion d'avant avait fait Littoral, avait joué Littoral, donc la première pièce de la tétralogie du Sang des Promesses. Et donc du coup, on avait fait une lecture juste comme ça pour voir si ça marchait. Et en fait, on est tous tombés amoureux du texte. Mmh. Voilà.
Formidable. Donc rappelez-nous les dates, quand vous jouez et oui. À quelle heure.
Alors,
et si par hasard, il y a un numéro de téléphone, si des auditeurs voudraient réserver.
Voilà, j'espère bien. Donc on joue le 27-28 janvier, donc la semaine prochaine, à 20h à l'acte 2, qui se situe 32 quai Arlouin, dans le 9e à Lyon. Et si vous voulez réserver, n'hésitez pas, donc c'est au 04 78 29 12 49, donc à Hâtre.
Eh ben, merci en tout cas d'être passé
à
nous donner ces informations fort intéressante. Et j'espère que il y aura de nombreux spectateurs lors de vos représentations. Passons aujourd'hui donc maintenant à nos invités, notre carte blanche du jour qui est aujourd'hui le théâtre Parker. Le théâtre Parker, et ma première question va être de vous présenter individuellement parce que vous êtes venu un certain nombre parler d'un auteur israélien qui s'appelle Hanor Levin, ou si on francise un peu, Hanok Levin. Donc je vais donner d'abord la parole à Gilles Champion, qui va se présenter lui-même en fait, ce sera plus simple, puisqu'il est président directeur général du Théâtre Parker, non je rigole, et donc si Gilles tu pouvais te présenter en quelques mots et qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter.
Oui, bonjour, donc je m'appelle Gilles Champion et donc je m'occupe d'une troupe de théâtre amateur que nous avons créée en 1984 au sein du comité d'entreprise des électriciens gaziers de Lyon. Donc j'anticipe en disant qu'on a produit depuis 64 spectacles, donc en gros 2-3 spectacles par an. Encore une fois, tous amateurs. Et donc cette année, on a décidé de travailler sur cet auteur israélien que nous ne connaissions pas, qu'on a découvert l'année dernière un peu tous ensemble. C'est d'ailleurs Thierry qui est à côté de moi qui nous l'a fait connaître. Et je passe la parole à Thierry.
Donc justement, bah, Thierry, comme tu vas te présenter et j'aimerais juste que tu nous dises aussi en quelques mots depuis combien de temps tu fais du théâtre, quel est ton métier et puis en dehors du théâtre, quelles sont tes passions, tes activités que tu aimes faire.
D'accord. Bonjour, bonjour. Donc je m'appelle Thierry Provost, je fais du théâtre depuis une dizaine d'années, théâtre amateur. J'ai rejoint le théâtre Parker cette année. Pour la saison 2011-2012. Je suis agent EDF dans le domaine informatique et comme passion en dehors du théâtre, la radio. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Ça tombe très bien. À côté de toi, nous avons Cécile. Et donc, Cécile... Alors, en fait, on a deux Céciles. Alors, qui commence? Elles se battent pour commencer.
Pas du tout. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Cécile A. Je suis retraitée de l'éducation nationale. Je fais du théâtre par hasard. Je fais des remplacements et après, bon, je me suis incrustée. Et puis, j'espère que je continuerai à jouer longtemps.
Et tu, qu'est-ce que tu fais en dehors quelles
je
sont tes activités
choses. Je fais de la danse. Et puis, d'autres activités que je ne pourrais pas dire parce qu'elles ne sont pas avouables.
Ah, d'accord. Eh ben, on va laisser l'antenne à ta camarade de gauche qui s'appelle également Cécile.
Oui, donc moi je suis deuxième Cécile de la troupe du Théâtre Parker, que j'ai rejoint aussi cette année. J'ai fait du théâtre il y a très longtemps avant d'avoir des enfants et puis j'ai eu des enfants, je les ai éduqués et puis maintenant je refais du théâtre. Voilà. Et sinon, je suis au chômage. Je suis passionnée de mots, de radio aussi. J'adore les textes, qu'ils soient français d'ailleurs ou de langue étrangère d'ailleurs. Voilà.
Et notre dernière invitée s'appelle donc Ilan Lévy. Il est directeur de l'espace Hillel et il vient un peu apporter un éclairage spécifique sur Hanor Levin.
Hanor Levin, oui, c'est comme ça qu'on dit en hébreu.
D'accord. Et donc, tu as rencontré le théâtre Parker
Il y a quelques mois, on a eu une rencontre, un coup de cœur avec Gilles et puis son équipe. Et donc, quand il m'a demandé de parler un petit peu de Hanor Levin, c'est avec plaisir parce que je connaissais bien cet auteur, je l'ai vu jouer plusieurs fois, puis j'ai connu parce qu'il avait créé une véritable famille pendant près de 30 ans autour de lui dans le théâtre Cameri à Tel Aviv, et j'en connais quelques-uns par mes voyages ou par des rencontres théâtrales. Il y a beaucoup de gens en France qui ont vécu aux côtés, parce qu'ils vivaient en famille tout le temps, qui ont vécu à côté de lui, donc je suis un petit peu connu et je connais un petit peu l'œuvre de Hanor Levin.
Génial. Donc peut-être, c'est vrai que Gilles, tu as un peu anticipé, mais pas trop, le mystère reste entier. Comment est né le théâtre Parker, en fait, au sein du comité d'entreprise d'EDF?
Alors d'abord, c'est tout simplement une passion. Hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, probablement. C'est ma mère hein, qui m'a dû me former là-dedans. Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre amateur au sein du CE d'EDF, parce que moi-même, je suis agent EDF, hein, je suis ingénieur dans le nucléaire. Et donc, en 79, j'ai commencé, premier emploi, premier rôle, pour faire très simple. Et depuis, j'ai autant de rôles que j'ai d'années professionnelles, pour faire très simple. Et donc en 84, il s'est trouvé que mon service est arrivé à Lyon et on a donc créé au sein du comité d'entreprise de Lyon cette troupe qui fonctionne bien, qui aujourd'hui on est 53 adhérents, ce qui est une grosse troupe amateur. On est membre de la Fédération du théâtre amateur, on participe beaucoup à sa vie, à la vie théâtrale amateur du Rhône. On connaît les amis de Hâtre, même s'ils sont un peu plus professionnels que nous. Mais on a eu des rencontres dans des festivals de théâtre amateur. Et puis, on essaye d'avoir une politique d'auteurs contemporains. Depuis le début, on a fait ce choix, pas que des auteurs contemporains, mais bon, on aime bien rencontrer les auteurs qu'on joue, d'abord pour discuter avec eux, savoir le pourquoi, du comment, et puis parce qu'on essaye, dans la mesure de nos possibilités, d'aider l'écriture contemporaine, d'aider le théâtre contemporain qui a toujours du mal à se faire une place sur les scènes publiques ou privées. Donc, de ce point de vue, on est très content d'avoir rencontré Ilan, qui fait aussi ce qu'il peut à Lyon pour développer ce type d'activité. Ai-je bien répondu ?
Et j'ai deux questions du coup à te poser. La première, c'est j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas que des agents EDF au théâtre Parker. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je l'ai oubliée, donc réponds d'abord à la première.
Oui, on est une troupe ouverte comme tous les comités d'entreprise. Nos amis de la SNCF ont une troupe de la SNCF, etc. Nos amis des finances ont une troupe des finances. Mais chacun n'est aucun CE n'est étanche. Donc il y a des cheminots parmi la EDF et réciproquement. Donc en fait, en gros, la moitié de la troupe sont des agents EDF et conjoints, famille, etc. Et puis il y a des gens qu'on appelle dits extérieurs, donc des pas mal d'enseignants ou des chômeuses récemment. Et on a notre première chômeuse dans la troupe. On a un peu tous les métiers. On a également des militaires qui sont venus faire du théâtre amateur avec nous. Donc c'est très ouvert, très divers. Il n'y a pas de règles très précises.
Gilles, j'ai retrouvé ma deuxième question.
Oui.
C'était où est-ce que vous faites concrètement vos répétitions ?
Alors on a un local qui est disposé vers l'hippodrome de Villeurbanne, mais donc c'est au métro Bonnevet. On a des installations du comité d'entreprise. Bon, il y a plein d'activités sportives diverses. Et nous, on a réussi à aménager un espace assez grand pour pouvoir répéter régulièrement. Donc tous les soirs, il y a une équipe différente qui répète. On a un cours également le mercredi.
Tous les soirs, vous répétez ?
Ah ben, tous les soirs, il y a une équipe différente. Puisque 53, c'est pas possible d'être tous dans une équipe. Ça nous est arrivé de temps en temps, mais c'est vraiment le gros spectacle. Donc on est 4 metteurs en scène, tous amateurs, et donc on a des équipes différentes sur des projets différents. Donc en vrac, le prochain spectacle, c'est La vie parisienne de Fenbach. Donc là, on est fortement, en fait, on est appui de la section chorale du comité d'entreprise qui monte cette opérette. Il y a quelques comédiens qui viennent les épauler.
Ensuite,
dont Cécile, qui a pas voulu dire qu'elle chantait, parce que je sais pas pourquoi, elle chante très bien. Et à l'automne, on va monter Pauvre France, qui est un boulevard bien classique. Donc, à l'automne dernier, on a joué à l'acte 2, une comédie contemporaine qu'on était venu présenter ici, d'ailleurs, qui s'appelait Royal Academy, d'un auteur contemporain qui s'appelle Claude Monteil, qui dirige le théâtre à Instant T. Voilà, puis d'autres projets encore, mais qui sont plus lointains. Donc on essaye d'être dans la diversité, dans le contemporain et le vivant.
Donc aujourd'hui, plus spécifiquement, vous êtes ici pour entamer, on va dire, une première étape de travail, de découverte, puisque vous allez certainement créer un spectacle autour des textes de Ranor Levin. Mais avant d'en parler, on va faire une petite pause musicale. Et on va écouter les Clash.
Yeah. copies and oral ammunition. With extreme prejudice, I try to terminate our mission. This is Radio Class, consider your position. But I'll get down low. This breaking news flash, assassination. Whoa! The whole country has been shot. Eagerly awaits illumination.
Bien le théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Je laisse la parole donc à Ilan Lévy, qui est un peu un invité de nos invités, puisqu'il va un peu nous éclairer de ses connaissances, un peu le parcours et puis l'œuvre de Ranor Lévin.
Oui, c'est toujours Ranor Lévin. Alors, en fait, Gilles disait qu'il aimait bien rencontrer les auteurs. Ça va être un petit peu difficile parce qu'il est mort il y a quelques années. Il est mort assez jeune. Il était né en 43, il est mort en 99, donc il avait à peine 60 ans. Et c'est un auteur qui a vécu donc 55 ans et qui a écrit 52 pièces. Donc quasiment une par an depuis son enfance, on pourrait faire en moyenne. Il passait sa vie à écrire et il paraît que sur son lit de mort, il continue à écrire ses pièces. Il a écrit il a pratiquement mis la touche finale à une de ses pièces avant de mourir, mais peut-être à quelques heures près. Et c'était un passionné de théâtre. Et c'est aujourd'hui le plus connu des auteurs israéliens, parce qu'il y a très peu d'auteurs israéliens connus à l'international. Lui, il est très connu. Moi, je l'ai vu jouer à la Comédie Française. Je l'ai vu à Avignon. Il y a toujours 3-4 pièces de lui. Il est maintenant, il tourne beaucoup. Moi, à l'époque, TNT à Toulouse, à Lyon, il a déjà été joué. Donc, c'est un auteur qui est en phase d'être maintenant, qui va rentrer dans les classiques, j'ai envie de dire, dans quelques années. Et qui a la particularité d'écrire, il a plusieurs types d'écriture. Et notamment, il a ce qui est connu en France, que beaucoup de ses œuvres sur les 52 pièces, lui en avait monté 32. Et donc, il y en a 20 qui n'ont pas été montés par lui. Mais beaucoup n'ont pas été traduites en français. Donc, c'est un peu difficile de les lire en hébreu pour bien comprendre la subtilité de la langue. Mais sur celles qu'on connaît, c'est surtout celles qu'on appelle les comédies grinçantes. Donc, c'est-à-dire Une laborieuse entreprise, Jacobi et Leidenthal, Krum et Schitz.
Qu'est-ce qu'on appelle comédie grinçante?
C'est-à-dire que c'est une comédie essentiellement autour du couple, de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, au couple, la famille, les voisins, la famille élargie. Et c'est toujours très drôle, en même temps cynique, c'est des personnages assez affreux parce que il y a jamais d'espoir avec eux. C'est-à-dire que ça part toujours d'un mariage, de quelque chose qui devrait être beau, et ça finit toujours un peu presque dans le sang, alors pas dans le meurtre, mais c'est des personnages assez affreux vraiment quand on connaît un petit peu l'œuvre de Lévin. C'est des gens qui pensent qu'à l'argent, qui n'ont aucun sentiment, et c'est ça qui le rend extrêmement drôle, parce que c'est
C'est pousser cynique. La caricature, oui, c'est pousser la caricature du couple, la caricature de la famille, la caricature des amis, parce que là-dedans, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, les gens sont là que par intérêt, et c'est assez fort. Et une partie de son œuvre a été un peu, il a eu un certain courage, parce qu'il a quand même écrit notamment, je pensais à Schitt's, qui est moins connu en France, qui a été écrite en 1974, si je me rappelle bien, donc juste un an après la guerre du Kippour. Et il se moquait de la corruption dans l'armée, et si vous voulez, c'était toucher un tabou. Et comme en Israël, il n'y a pas de censure, il n'a pas été censuré au sens politique, mais il a eu beaucoup de soucis. Il y a une partie de la presse qui s'est déchaînée contre lui. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé indifférent, parce qu'à la fois, il avait des gens qui le soutenaient en disant c'est la liberté de la presse, c'est la liberté de l'écriture, pardon. Et une autre partie qui disait vous touchez à l'armée, et en Israël, l'armée, la religion, c'est un peu tabou. Bon, moi maintenant, les choses sont arrangées, mais on est encore dans les années 70. Et quand il écrivait à l'époque, il marquait de son empreinte l'écriture, et c'est pour ça que. Il est connu maintenant dans le monde entier. Simplement, on connaît plus ses pièces parce que les pièces qui sont plus politiques seraient moins compréhensibles. Elles sont plus anciennes et elles seraient peut-être moins compréhensibles à l'extérieur. Elles étaient écrites quand même pour les Israéliens.
Elles sont traduites, ces pièces, plus politiques?
Non, très peu, très peu. Celles qui sont traduites, surtout, c'est les cabarets là, dont Gilles et son équipe vont parler et les comédies grinçantes qui, là, en effet, sont assez intemporelles. Elles se passent à Tel Aviv, mais elles pourraient se passer à Paris, New York ou même Buenos Aires. C'est pas gênant en soi parce que ça se passe autour de la famille. Donc, ils pourraient.
Le thème essentiel de ces pièces, c'est la famille, les voisins.
La famille, les voisins, le couple. Et chaque fois, on pourrait dire. D'ailleurs, il parle d'une pièce, Gilles parlera, qui s'appelle Que d'espoir. En fait, il n'y a jamais d'espoir. Mais c'est ça qui les rend très drôles. Et c'est vrai que c'est un humour un peu grinçant. Et quand on rit, et puis après, on se dit, j'ai quand même ri à ça. C'est un peu bizarre. Mais c'est un auteur qui, si vous ne le connaissez pas, qu'il faut vraiment découvrir pour ça.
Ouais, c'est parfait, parce qu'en plus, aujourd'hui, vous allez nous lire des extraits. Donc, c'est assez. On va découvrir un peu. Tous ensemble.
J'ai juste une petite correction à apporter à mon ami Ilan. En fait, Édition Théâtrale Maison Antoine Vitesse a édité les 30 pièces dont tu parlais, qui ont été traduites. Et non seulement il y a les comédies satiriques dont tu as parlé, mais il y a également les pièces politiques, dont Schitt, là, dont tu as parlé.
Schitt, c'est un peu là entre les deux. Elle pourrait être classée politique et couple, parce que ça, c'est autour de l'histoire d'un couple.
Et puis, il y a également des pièces mythologiques. Donc, il s'est amusé, on va dire, à détourner des mythes de la religion. Hein,
ouais, c'est celle-là qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont difficilement jouables encore. On les voit peu en France, en fait.
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnages ou...
Je crois qu'elles ne sont pas toujours faciles à monter. Faudrait demander à un metteur en scène. Là, je ne suis pas metteur en scène. Faudrait demander à un metteur en scène son avis. Ce n'est pas si facile que ça à monter. Les pièces de les comédies grinçantes sont assez faciles. Enfin, sont assez simples à comprendre. Mais les autres pièces, je ne suis pas sûr qu'elles soient si faciles que ça à monter. D'accord. D'ailleurs, certaines, je ne les ai pas lues. Parce qu'on ne les trouve pas là. Il y en a une trentaine de traduites. Il y en a même, je crois qu'il y en a une vingtaine qui n'ont pas encore été traduites.
Oui. Enfin, nous, on s'est attelés. On a acheté l'intégrale. Alors, on a acheté tout ce qui était publié chez Théâtral. Ça fait une quinzaine de centimètres de haut et on se les est répartis pour les lire. On a commencé bravement.
Un comité de lecture au sein de l'atelier.
Oui, tout à fait. On essaye de tout lire. Ça. Ouais, peut-être y arriver.
Et alors,
c'est une grande œuvre.
Il y a des pièces que vous avez plus privilégiées que d'autres, par exemple.
On a pioché pour aujourd'hui des extraits dans différentes pièces. Donc il y a des sketchs. Hein. Que Thierry va nous lire. Il y a également des extraits de Jacobi et Liedenthal. Voilà, on a essayé de faire une petite approche un peu, pas globale, non, du personnage, mais pour donner au lecteur un peu une vue générale de ce qu'il traitait.
Ah, j'ai une question du coup pour Thierry. Comment t'as découvert, toi, cet auteur ? Parce que tu dis, apparemment, c'est toi qui l'aurais fait découvrir. À la troupe du théâtre Parker.
Je l'ai découvert plutôt simplement dans la presse. Il s'agissait d'un article au sujet de la pièce Funérailles d'hiver. Voilà, la première découverte. L'article m'a entraîné vers la pièce vers la lecture d'autres textes, entre autres les pièces courtes, cabaret. Et voilà, bon, un coup de cœur.
Coup de cœur au théâtre Parker. On va commencer par un premier extrait qui fait partie de Jacobi et Liedenthal. Et c'est une pièce qui est écrite, vous savez en quelle année ou vous... Non, c'est une petite question d'un.
Je vais vous trouver ça.
Ah. Bon, on va écouter l'extrait pendant ce temps.
Alors, je m'appelle Ruth. Et j'appelle Itamar, 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 regarde Itamar, regarde ça. Qu'est-ce qu'elle a pour toi, cette petite femme, hein? Un sein? Un coquin de sein? Un coco de sein? Un nichon? un néné, un lolo. Oh, regarde comme il rebondit, Itamar, regarde. Tu vois? Superbe, non? Hop, et ding, et ding. Et dong, et hop, et ding, et ding, et dong. Et regarde, en voilà un autre. Un saint et deux saints. Tête mi, tête moi. Et les voilà tous les deux qui gambadent, les petits filous. Et hop, hop, ding, ding, dong, hop, hop, ding, ding, dong. Grandiose, Tamar, hein, non? Et là, qu'est-ce qu'on a là? Oh, mais c'est gros popotin. On l'avait oublié, celui-là. Il se cache toujours derrière. C'est pour ça qu'on l'avait oublié. Et lui aussi, il rebondit. Boum, boum. Tout se met à caracoler aujourd'hui. Que se passe-t-il? C'est la fête de l'indépendance ou quoi? Eh bien, les coquins. Oh, et voilà des hanches. Et voici des cuisses et un ventre. Et sous ce ventre, hein, la grotte secrète réservée au petit jeu d'Itamar. Et voilà une bouche, des lèvres, deux mains et des épaules. Oh, quelle avalanche! Et tout ça pour qui? Pour Itamar, pour le petit mignon, gentil Itamar. Itamar guérit, Itamar malade. Itamar a envie de jouer avec tout ce petit monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Itamar? Itamar cacamar, car va maintenant s'asseoir sagement et jouer avec tous ses joujoux. Viens, mon canard, viens t'amuser avec les bébêtes. À route, viens!
Voilà, c'était un premier extrait.
Écrit en 1972.
Ah, génial. Et la pièce parle de quoi, vous savez?
C'est un couple qui se dispute et qui se déchire. Et là, je crois qu'à un moment, si je me souviens bien, il y a l'intervention d'un voisin. Mais je confonds peut-être avec une laborieuse entreprise qui est un peu le même schéma. Mais c'est un couple qui ne s'aime plus et qui continue à vivre ensemble parce que finalement, ils vivent ensemble parce qu'ils ont toujours été ensemble.
Oui, et puis le voisin est également quelqu'un avec qui il joue tout le temps sur la terrasse et il comprend plus, qu'il veut plus jouer avec lui. Enfin bon, donc on a choisi cet extrait d'abord parce que ça nous a fait rire et puis parce que c'est assez cru et donc le personnage féminin, les personnages féminins sont, comment dire, très sensibles au fait que de par leurs attraits, là, elles peuvent gagner quelque chose. Hein, donc c'est pas très sentimental.
Ah non, les sentiments, c'était pas son truc à Lévin.
Est-ce que vous avez prévu d'autres extraits?
Oui, bien sûr. Alors, on va continuer dans les saints. Et puis après, on passera à deux autres extraits qui sont plus décalés encore. Alors voilà, toujours dans Jacobi et Liedenthal. Donc, c'est Monsieur Liedenthal qui va parler, qui dit « Ô frères humains, mes frères de souffrance !» On est tous tombés sous le charme des saints quand nos fraîches mamans nous les ont mis sous le nez, en disant « Tête, petite tête, pouvions-nous résister ?» C'était si bon, si chaud, si nourrissant, apaisant en un mot, le saint est l'opium des enfants. Après on a grandi, alors disparus les saints, cachés sous des soutiens-gorges, et pour les toucher ou les embrasser, combien doit-on payer? Sûrement, nous, conditionnés, manipulés par le lait de nos mères, on est prêt à tout pour en voir les ronds d'or, comme si le saint était l'incarnation du beau. Oh, vous, frères humains, mes frères de souffrance, assez de nous leurrer, soyons objectifs. Le saint, c'est quoi? Une boule de graisse, une excroissance toute molle, un soufflet monté, mais bien vite, apaisé, une pub à l'américaine, tendancieusement sucré, bref. Une enflure, et encore, qui se pique d'une espèce de bouton couleur de gadou. Oh, mes frères, fini la langue de bois. Le saint est tordu, 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 il a tout mal, tout faux, il ne mène à rien. Libérez-nous de son joug terroriste. Engagez-vous en masse dans les parachutistes. Oui, c'est bien ça, par la force, je ne comprends rien d'autre. Oui, bravo, comme ça.
Est-ce que on fait encore un petit extrait?
Alors on peut faire un petit extrait. Alors on va changer carrément de registre. Thierry va nous lire un passage, un monologue, hein, qui s'appelle Dany Chéri, et je vous laisse découvrir toute la désespérance ou noirceur de ce texte.
Il n'y a rien. Puis-je appeler ce rien Dany Chéri ? Bien sûr que non. S'il n'y a rien, il n'y a pas non plus de Dany Chéri. Mais il aura suffi qu'un homme, mon mari en l'occurrence, me pénètre pour qu'en moi une cellule soit fécondée et commence à se diviser. Puis-je appeler cette division Dany Chéri ? Bien sûr que non. C'est encore trop tôt. Et si le processus s'arrêtait à mi-chemin, ou s'orientait plutôt vers Lily Chéri ? La cellule continue à se diviser. Une vie se forme en moi. Puis-je l'appeler Dany Chéri ? Bien sûr que non. Il n'a pas encore de trait de caractère. Son visage est flou, tout au plus je peux l'appeler embryon. Embrébri ? Embrébri grandit et se développe. Son visage commence un peu à nous ressembler, à moi et à mon mari. Et voilà qu'il naît, il vient au monde et hurle. Est-ce Dany Chéri qui hurle ? Oui, c'est Dany Chéri, bien que nous n'ayons pas encore décidé quel nom on lui donnerait. Pour l'instant, on l'appelle encore Choupiné, ou Petite Crevette, ou Mon Bébé. Mais ce que je ressens envers lui se nomme déjà Dany Chéri. Dany Chéri, Dany Chéri. D'ailleurs, au bout de 8 jours, c'est bien avec Dany Chéri que nous rentrons à la maison. De ce rien, de toutes les combinaisons possibles et imaginables, de toutes les divisions qui n'ont pas plus fait vibrer mon cœur qu'un courant d'air, voilà qu'a soudain émergé la chose à laquelle je tiens maintenant le plus au monde, Dany Chéri. Il y a la Lune et la Voie lactée, 500 espèces différentes de grenouilles, la bombe atomique, et à côté, partie intégrante du cosmos, il y a, sur la même ligne de mire, Dany Chéri. Dany Chéri vivra, touchons du bois, 60 ou 80 ans, pas assez à mon goût. Et quand il mourra, je serai moi-même morte depuis belle lurette. Mais il aura été le Dany Chéri de sa femme et de ses 2 adorables enfants. Mais s'il est mort, pouvons-nous encore l'appeler Dany Chéri ? Bien sûr que oui. On l'enterre sous le nom de Dany Chéri. On imprime des faire-part de décès à son nom et on grave ce nom sur sa pierre tombale. Mais ce n'est déjà plus le Dany Chéri que nous connaissions. Certes, il a encore un visage, mais plus d'esprit ni de sentiments. D'ailleurs, il ne répond pas à son nom. Et avec ses traits qui deviennent de plus en plus flous, combien d'années pourrons-nous continuer à l'appeler Dany Chéri ? Il finit par s'effacer complètement. De Dany Chéri, il devient Clamcy Chéri, cadavre puis squelette. Il ressemble presque à la cellule première qui s'était divisée, mais à l'envers, car cette fois, au lieu de grossir, il rétrécit, se fait dépouiller par ce qui est autour de lui. Les plantes et la vermine s'en donnent à cœur joie et le réduisent en grains de poussière. Des petits poussis-poussis, plus rien. Pouvons-nous encore appeler ça Dany Chéri ? Bien sûr que non. S'il n'y a plus rien, il n'y a pas non plus de Dany Chéri. Voilà, fini Dany Chéri. Bon, jusque-là c'est clair, mais je me demande tout de même. Premièrement, comment est-ce possible ? Oui, comment expliquer que d'abord il n'existe pas ? Tout à coup il existe, et ensuite, de nouveau, il n'existe pas. Deuxièmement, pourquoi est-ce ainsi ? Si Dany Chéri n'avait jamais existé, j'aurais compris. Mais puisqu'il a existé, pourquoi faut-il de nouveau qu'il n'existe pas ? Troisièmement, si telle est la loi de la nature, c'est-à-dire s'il faut que d'abord Dany Chéri n'existe pas, qu'après il existe et qu'ensuite il n'existe de nouveau pas, pourquoi ai-je tant de mal à l'admettre ? Pourquoi ne puis-je pas dormir tranquillement la nuit ? Oui, pourquoi suis-je incapable d'accepter la loi de la nature ? Quatrièmement, je refuse toute généralité, que ce soit de physicien, philosophe ou théologien, qui ergote sur le cycle de la vie et tout le bazar. C'est peut-être idiot, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement le problème de mon Dany Chéri. Dany Chéri, rien d'autre.
Quel beau texte sur l'amour d'une mère envers ses enfants.
Il y a peut-être un peu plus, hein. On a discuté entre nous, on y voit un peu du Beckett. On s'est posé la question de savoir si on pourrait dire que Levine était un auteur athée, parce que s'il n'y a pas du tout d'espoir, et comme il dit, il n'y a pas de théologie, de rachat, de messie, de... Qu'est-ce que tu en penses, Ilan ?
Peut-être, oui. Je n'aurais pas le mieux passé pour y répondre, mais... L'athéisme et le judaïsme sont assez mêlés dans ces cas-là, donc c'est une façon aussi à lui, c'est de l'humour juif aussi, c'est très, très plein d'autodérision. Est-ce qu'il était athée ? Il faudrait demander à des gens qui l'ont connu, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, c'est vrai que ça, c'est des gens intéressants à rencontrer, peut-être à l'occasion dans une émission radio, c'est des gens qui racontent, parce que c'était presque un gourou pour sa troupe de théâtre.
Justement, on se posait la question entre nous, parce qu'on découvre cet auteur, on n'a pas le fait tour, hein, bien sûr. Quand tu dis que c'était un gourou, tu parles de famille, comment il vivait, il a eu une famille, il avait une troupe, il avait un groupe.
Il avait une famille, il a été marié deux fois, donc finalement assez classique, hein, de ce côté-là, mais il avait une troupe qui était toujours un peu la même pendant très longtemps, il avait des gens qui sont restés très longtemps avec lui, et ils vivaient beaucoup ensemble. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, parce que c'est quelqu'un qui a accordé extrêmement peu d'interviews, qui était déjà une star dans son pays, mais il a très très peu parlé. Il a surtout écrit des chansons, il a écrit beaucoup de chansons, il a travaillé un petit peu pour la télévision et surtout beaucoup pour le théâtre. Le théâtre, c'était sa vie. Mais on ne sait pas énormément de choses sur lui.
C'est extraordinaire. C'est un auteur qu'on connaît peu sur sa vie et dont l'œuvre commence à être intégrée, à être publiée presque.
Mais il est mort jeune aussi, c'est peut-être pour ça. Il n'a pas eu le temps de laisser, ouais, de faire ses mémoires ou de raconter plus.
Il y a tellement de gens qui écrivent leurs mémoires et puis en fait parce qu'ils n'ont rien écrit de bien d'intéressant dans leur vie.
Il a 25 ans, c'est vrai.
Non, mais oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a tant écrit sur la vie, sur la famille, et on en sache très peu au final sur lui-même.
Oui, alors il va falloir qu'on creuse.
Est-ce qu'il faudrait creuser un petit peu, hein. Je ne suis pas sûr qu'on ne sache rien du tout, mais c'est vrai qu'il a vécu en Israël toute sa vie, il faudrait retrouver des gens. Je pense qu'il a quand même une vie assez intéressante, mais à part qu'il a été marié deux fois, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Alors juste un complément. Donc hier, une adhérente de la troupe qui est de résine israélienne, qui connaît bien Israël par conséquent, nous a dit que l'hymne israélien parlait d'espoir.
Ça s'appelle l'espoir, oui. La tikva, c'est l'espoir, oui.
Et tu connais les paroles, non?
C'est un chant d'espoir. Je les connais en hébreu, en français. C'est un chant qui dit que c'est l'espoir et qu'il faut regarder vers demain et que ça va aller mieux. C'est moins guerrier que la Marseillaise, en tout cas. C'est sûr.
Parce que du coup, on s'est posé la question de savoir si quand il a écrit son recueil qui s'appelle Que d'espoir, point d'exclamation, et puis les extraits qu'on a lus qui montrent qu'il n'y a pas d'espoir, en fait. La vie est cruelle, la vie doit être vécue à tout instant avec la chair et sans faire de fioritures sur les grands sentiments, puisqu'en fait, souvent, c'est beaucoup plus dur que ça. On s'est dit, tiens, il a dû probablement écrire et donner ce titre en autodérision par rapport à l'hymne israélien.
C'est fort possible. Il n'en a jamais parlé, mais c'est fort possible.
Parce que c'est frappant, hein, quand on lit ses textes, c'est à la fois désespéré et beau, parce que, et drôle, parce que quand on les a lus nous-mêmes, on a beaucoup ri ensemble. D'ailleurs, on a prévu un dernier sketch qui va être lu par l'autre Cécile et encore Thierry. Et qui parle enfin, c'est difficile à résumer, comme toujours. Mais la chute est assez drôle.
Mais peut-être avant ça, on va faire une nouvelle petite pause musicale avec une chanteuse qui parle aussi beaucoup d'amour désespéré. J'ai nommé Edith Piaf.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da-da.
Donc vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct sur Radio Canu. On est toujours avec la compagnie, la troupe Théâtre Cœur pour entendre des extraits et parler de Ranor Levin. Et on va entendre un dernier extrait. Extrait de quel texte ?
Alors c'est un sketch extrait d'un recueil qui s'appelle « Douce vengeance et autres sketchs ». Hein, c'est fait. Il y a deux collections de sketchs et on a sélectionné un qui s'appelle « L'erreur » et qui va être lu par Cécile et Thierry.
Non, mais tu places le contexte ou
Oh non, il n'y a pas de contexte, il n'y a aucun contexte. Voilà. C'est des sketchs autosuffisants dans Levin.
Tu te souviens
Alors, dans le micro.
Ah ok. Tu te souviens du docteur Kurtz, celui qui, à l'époque, s'est montré très élogieux sur tes travaux de psychologie comportementale ?
Bien sûr. Il lui est arrivé quelque chose ? Il est mort ?
Pas du tout. C'est juste que je viens de le croiser par hasard dans la rue. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Qu'il était au regret de m'apprendre que tout ce qu'il avait écrit à ton sujet s'était par la suite révélé complètement erroné. Il est désolé, mais tes travaux sont de la plus totale nullité. Il a ajouté que cela faisait déjà un certain temps qu'il me cherchait pour m'en informer.
Sérieusement, c'est ce qu'il a dit ? Il a dit que mes travaux étaient de la plus totale nullité ?
Oui, il admet qu'à l'époque, tes conclusions l'avaient fortement impressionné, mais elles étaient tellement superficielles qu'elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, son erreur d'appréciation lui a sauté au cou.
Il n'était pas le seul à louer mes travaux. À l'époque, on n'a pas arrêté de me féliciter.
Eh bien, figure-toi que le chef de ton département, une certaine Madame Mouzalak, docteur Mouzalak, a téléphoné pas plus tard qu'hier.
Qu'est-ce qu'elle voulait ?
Me prévenir de la terrible erreur qu'elle avait faite.
À mon sujet ?
Oui. Elle, qui ne s'est jamais trompée sur rien, avoue avoir été totalement aveuglée par tes travaux. À l'époque, elle a cru que tu valais quelque chose, mais bon, aujourd'hui elle se rend compte à quel point elle s'est trompée.
Comment est-ce possible ? Elle n'avait pas d'yeux, pas de cerveau ?
Si, mais elle allait très mal, tu comprends. Elle était fatiguée et en pleine dépression. Du coup, elle avait cru discerner en toi une étincelle de génie ou je ne sais quoi. Mais voilà, le temps a passé, elle s'est reposée, a retrouvé toute son énergie et est sortie de sa dépression. En repensant à toi, en présence de toutes ses facultés, force lui a été de constater son erreur. Elle a compris que tu n'étais pas du tout ce qu'elle avait cru.
Ce qui compte, c'est ce qu'a écrit le professeur Psizada de l'Université de Munich.
Figure-toi que ce monsieur est justement de passage en Israël et que, par hasard, il était dans le bureau de cette madame Mouzalak quand elle m'a appelée.
Et ?
Eh bien, il lui a arraché le combiné des mains tant il tenait à s'excuser d'avoir fait la même erreur que sa collègue.
Ils se sont tous trompés, surtout ?
Oui, il a parlé d'une erreur totale, fondamentale et définitive.
Mais enfin, j'ai eu tellement d'éloges de tellement de confrères ici à l'étranger.
Effectivement, nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques jours deux lettres très instructives. Une de la Société internationale de recherche en psychologie, qui nous annonce que tous les experts du monde, excepté trois, viennent de se rendre compte qu'ils t'ont totalement surestimé. L'autre lettre de l'agence de presse internationale nous écrit pour nous informer que les trois experts mentionnés dans la première lettre sont des Japonais et qu'en fait, ils t'ont confondu avec un autre chercheur. Toi, tu es Rosenzweig et eux pensaient que tu étais Liechtenstein. C'est donc par erreur qu'ils ont vanté tes mérites.
Rien que des erreurs, des malentendus, des surévaluations et des aveuglements, c'est ça ?
Que faire ? On m'a même appelé de la télévision pour m'informer que le monde scientifique préparait un grand colloque international qui devrait aboutir à une déclaration commune et sans ambiguïté afin d'en finir une fois pour toutes avec cette affligeante série d'erreurs.
C'est une catastrophe. Et qui me dit que dans quelques années, ces mêmes scientifiques ne se rendront pas compte que c'est maintenant qu'ils se trompent ?
Impossible ! Tes travaux ne valent rien ! Comment voudrais-tu qu'ils changent d'avis puisque c'est la vérité ?
On ne peut pas dire que tu sois très encourageante.
Ah, j'aimerais bien, crois-moi, mais... D'ailleurs, la rumeur s'est même propagée en dehors du monde scientifique. Rien que ce matin, j'ai rencontré les Zimmermann, tu te souviens ? C'est le couple avec qui on est parti en Crète.
Quel rapport ?
Tu te souviens qu'à l'époque, ils avaient dit avoir pris beaucoup de plaisir en ta compagnie ?
Ça fait 10 ans.
Eh bien, hier, dans la rue, Madame Zimmermann m'a reparlé de ce voyage et m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle cherchait à nous joindre pour remettre les choses en place.
Quoi ? Ils n'ont pas apprécié le voyage ?
Si, beaucoup ! Mais ils ont pris conscience après coup que ce n'était pas du tout grâce à toi. À vrai dire, ces derniers temps, tous ceux qui ont un jour été en contact avec toi me téléphonent ou m'arrêtent dans la rue pour me dire qu'ils se sont trompés à ton sujet. Ah oui, j'oubliais ce matin, Zahava m'a appelé. Zahava, qui t'avait pris pour l'homme de sa vie.
Elle aussi ? Mais elle était dingue de moi.
Elle a compris qu'en réalité, tu l'as dégoûtée.
Impossible, elle a même fait une tentative de suicide au moment où je l'ai quittée.
Mais figure-toi que quand je lui ai reparlé, elle a éclaté de rire. En fait, mais elle ne s'en est rendue compte qu'après des années de thérapie, elle avait tout simplement fait un transfert sur toi. C'est à cause de quelqu'un d'autre qu'elle voulait se suicider et avait cru par erreur que c'était à cause de toi.
Qu'est-ce qui se passe tout à coup ? Le monde entier m'a surestimé ? Qu'une seule personne et c'est moi ? Quoi, je suis la seule et unique erreur dans tout l'univers ?
À ce qu'il semble.
Bon, d'accord. Ils se sont tous trompés à mon sujet. Et ils ont tous changé d'avis. D'accord. Mais pourquoi ce besoin de le clamer sur tous les toits ? On s'est trompé, alors ? On ne peut pas laisser une erreur courir tranquillement ?
Tu es apparemment un point particulièrement douloureux, tu sais. Le genre qui appuie juste là où ça fait mal.
C'est terrible, terrible. Et le pire, c'est que tous ces gens sont des êtres humains, c'est-à-dire des personnes qui peuvent changer d'avis comme de chemise, sous prétexte qu'elles se sont trompées. Quand je pense que j'avais tout misé sur le fait que je n'étais pas n'importe qui.
C'était une erreur.
Ça va, pas la peine d'insister.
Si, il faut que toi aussi tu saches que tu t'es trompé sur toi-même, comme les autres.
Et si tous les autres changeaient d'avis dans 100 ans ?
En ce qui te concerne, aucune inquiétude, ça n'arrivera pas.
Mais supposons, et alors, dans 200 ans, ils rechangeront d'avis et diront à nouveau qu'ils se sont trompés ?
Rassure-toi, c'est impossible.
Et moi, je serai une merde ou un génie, selon que...
Aucun risque, tu as atteint ton minimum, le point de non-retour dont on ne se relève pas.
Ma valeur fera le yo-yo au fil des générations à venir. Moi, je serai couché dans la tombe, et la seule chose qu'il me restera à faire, ce sera de suivre avec angoisse mes fluctuations, comme les cours de la bourse. C'est terrible, terrible. Et si demain, une bombe atomique explosait et détruisait la Terre ? Eh bien, elle détruirait un monde convaincu de m'avoir célébré par erreur. Pas un monde qui me porterait au nu.
Effectivement.
Et tous les gens partiraient en fumée, avec la certitude de m'avoir célébré par erreur. Terrifiant. des milliards de particules de certitude qui trimballeraient leur erreur pour l'éternité à travers le cosmos.
Évidemment, puisqu'il s'agit d'une vérité éternelle.
Tout frissonnant de douleur, le professeur Psizada lâcherait un râle d'agonie, porteur lui aussi de la certitude de me voir par erreur pris pour quelqu'un. Les lèvres du docteur Kurtz se contracteraient en un ultime spasme.
Ainsi que celle de ton amoureuse, Zava.
Un ultime spasme qui ne regretterait pas ce cher Rosenzweig, dont nous estimions toute la profondeur et le discernement. Non, dans son ultime spasme, il se désolerait en même temps que la bombe atomique et de son erreur à mon sujet.
Sans oublier les trois Japonais qui, eux, se désoleraient de la bombe atomique et de leur confusion entre Liechtenstein et Rosenzweig.
Un vrai cauchemar, oui. Même les trois Japonais.
C'est un autre aspect de l'humour de Lévin. Là, c'est sans concession par rapport aux illusions qu'on peut se faire sur soi-même d'une part, mais également sur les illusions que la société peut nourrir par rapport à quelqu'un. Combien de gloires éternelles se sont effondrées très vite. On pense à des personnages historiques, mais à l'heure d'aujourd'hui, des médias hypertrophiés, on voit des gens monter très 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 haut et tomber aussi vite. Enfin, ça nous a touché ce texte, Thierry.
Oui, beaucoup. Enfin, moi, il y avait le thème du souvenir qui se rapprochait un peu du texte d'Annie Chéri tout à l'heure, pour moi, ça parlait aussi de qu'est-ce qui reste des gens. L'existence, pourquoi, comment, mais surtout l'aspect qu'est-ce qui reste de quelqu'un quand il n'est plus là.
En lisant hier soir, je rappelais à mes amis que dans le film 3, le dernier film sur la guerre de Troie, il y a une très belle scène au début où Achille discute avec une sorte de prêtre, et le prêtre lui dit « Bon voilà, écoute Achille, tu as le choix, en gros, soit tu te maries, tu auras des beaux enfants, qui eux-mêmes feront des enfants, tu seras aimé de ta femme, de tes enfants, de tes petits-enfants, et puis tu vas mourir, et ils vont encore penser à toi, 10 ans, 20 ans, 50 ans, puis dans 100 ans, tu auras été complètement oublié, tu seras parti dans rien du tout. Ou tu deviens Achille, tu seras éternel, mais tu vas mourir jeune. Voilà, tu choisis. Alors évidemment, Achille choisit d'être Achille. Donc c'est une très belle scène dans ce film américain à gros budget. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu cette affaire quelque part. On a tous des ancêtres, hein, on a tous des générations passées, et les générations passées, on les a un peu oubliées, on les oublie, si on peut guère faire autrement. Et j'ai vécu, comme certainement beaucoup d'entre vous, des funérailles, des obsèques. Et ça m'est arrivé d'enterrer des gens où on était très très peu nombreux. On était 10 à peu près. Et c'est terrible de voir une vie qui se résume à rien. C'est quand vous êtes arrivé au bout et vous dites, mais finalement, qu'est-ce que j'ai amené? Est-ce que j'ai amené quelque chose?
Alors, c'est un peu la question qui se pose aussi dans le texte d'Annie Chéri, du coup, aussi.
Ah, complètement. On sent bien qu'il faut que cet auteur souhaite qu'on amène quelque chose de positif, de bien. C'est une question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce que j'ai amené aux autres? Voilà. Donc, de ce point de vue, cet auteur est très, très fort. Je pense qu'en pense Ilan.
Oui, j'ai rien à dire de plus. C'est à peu près ça. C'est quelqu'un qui a marqué pour sa réflexion sur l'humain.
Et si on a encore juste une minute, j'aimerais lire pour terminer le début de la pièce qui s'appelle Les Mendiants. Voilà. Qui s'appelle. Excusez-moi. C'est une. Les souffrances de Job. De Job. Voilà. Donc Job est un personnage de la biblique. C'est quelqu'un qui est
pauvre.
On l'a dépouillé complètement. Alors il en a fait des sortes de détournements de satire. Donc juste le début, le monologue. Voilà, donc ça commence comme ça. Chez Job, fin du banquet, repus. Les convives sont affalés autour de la table recouverte des reliefs du festin. Job. Qu'est-ce qu'un homme rassasié? Un homme rassasié, c'est un homme fini, condamné. Que peut-il espérer? Tout est bouché, scellé. Il a du mal à remuer, à respirer. La vie, comme un poids, lui écrase le cœur. Comment décrire un tel désespoir? Un horizon si noir ne peut que s'éclairer. Mais 2 heures plus tard, que se passe-t-il ? Deux heures plus tard, c'est le même désespoir. Quoiqu'un peu moins dense, l'horizon commence à s'éclaircir. Notre homme ne bouge toujours pas, il est encore ballonné, mais respire déjà mieux. Et 4 heures plus tard, ah, 4 heures plus tard, une lueur d'espoir remonte des profondeurs intestines. Pas encore les gargouillis de la faim, mais un début d'envie, et notre homme qui, une heure plus tôt allongé sur le dos comme une tortue, lançait ses rots douloureux vers le plafond, émerge de sa torpeur, se retourne sur le ventre et fait passer le travail des vents du devant au derrière. Qui a dit que la vie était un poids qui écrasait le cœur ? Et 6 heures plus tard, le poids s'est fait plume. La vie retrouve sa légèreté, ses couleurs. Elle étend ses ailes, le ventre gazouille. Notre homme se redresse, frais et dispo, et s'envole vers la table en salivant. Oui, l'homme renaît toutes les 6 heures.
Ce sera le mot de la fin pour cette émission. Moi, j'ai quand même, avant de rendre l'antenne à la bande passante 24/24, j'ai une dernière question quand même. Donc, vous êtes en préparation, donc là, vous êtes dans une phase de découverte, de lecture, et vous pensez créer un spectacle pour janvier 2013.
Voilà, donc on va constituer l'équipe bientôt, en février, se répartir les sketchs. Faut que je monte une scénographie pour assembler tout ça. Trouver une musique, je pense plutôt à du free jazz, hein, un peu du Louis Clavis, pour ceux qui connaissent ce style de jazz. Et donc l'objectif, c'est d'être prêt fin 2012 pour la jouer en janvier 2013 sur Lyon.
D'accord. Et donc vous allez la tourner dans plusieurs... Vous êtes en train de faire des démarches encore ou pas ?
On va commencer. Voilà. Selon un cycle classique des troupes amateurs, il faut bien une année à peu près pour faire le cycle.
Bon. Eh ben, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été mes invités aujourd'hui.
Merci de l'accueil.
Merci. Ouais,
merci beaucoup.
Et puis, pour réécouter l'émission, vous pouvez aller sur le site de la compagnie Les Montures du Temps, lesmonturesdutemps.fr. Et puis, la semaine prochaine, on accueillera Odile Loria, une comédienne mexicaine. Et ce sera aussi une carte blanche pour elle. Eh bien, au revoir à tout le monde et merci encore.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Merci.